Le journal avec Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Sortira pas. Theresa May demande un report du Brexit au 30 juin, mais pas sûr que les Européens acceptent, ni son Parlement. La perpétuité pour le boucher des Balkans en appel. La justice internationale a durci la peine contre Radovan Karadzic. L'indignation de tous les élus et responsables politiques de La Réunion après les mots de Brigitte Bardot. Elle traite les habitants de l'île de sauvages. Le procès inédit des pesticides utilisés dans les vignes du Bordelais. Des élèves d'une école avaient fait un malaise. Les domaines demandent la relaxe. Et puis du foot, la Ligue des champions version femme, l'OL, reçoit Wolfsburg en quart de finale dans le grand stade de Lyon, comme les hommes. Des nuages au nord-ouest, du soleil ailleurs. Demain, météo à la fin de ce journal avec Sébastien Léas.
Après le journal Un jour dans le monde jusqu'à 19h, un avertissement, un signal d'alerte avec Georges Hugeux, banquier ancien numéro 2 de la Bourse de New York. Il prédit une nouvelle crise financière dès l'an prochain. Pour expliquer ce risque de tsunami financier, il publie chez Odile Jacob La descente aux enfers de la finance. Georges Hugeux sera notre invité. 19h20, le téléphone sonne, journée spéciale, Interclasse. C'est la quatrième saison, ce partenariat entre France Inter et des collèges et lycées pour mieux connaître la fabrique de l'information. À l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école, question sur l'ascenseur social toujours trop lent en France. Vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000.
France Inter.
Amélie, le Royaume-Uni, bien parti pour ne pas sortir de l'Union européenne à la fin du mois.
Comme s'il était bloqué dans le fog, dans ce brouillard tellement anglais où l'on ne distingue même plus le chemin à suivre. La chef du gouvernement britannique, Theresa May, a officiellement demandé aujourd'hui le report du Brexit au 30 juin. Il doit être approuvé, ce report, par les 27 autres États membres de l'Union, réunis demain et vendredi à Bruxelles. Et le report doit aussi être voté au Parlement à Londres, le tout avant le 29 mars. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Notre correspondante au bureau européen de France Inter à Bruxelles. Alors, on n'a jamais été aussi près d'un no deal, d'une sortie sans accord, Angélique?
Oui, car la seule option sur la table pour l'éviter serait désormais que Theresa May arrive à faire voter par son Parlement cet accord de retrait sous 8 jours. On y croit peu ici, après déjà deux refus. Mais la réponse des Européens à la Première Ministre est claire. Si tel était le cas, alors il devrait accorder le délai technique nécessaire pour une ratification dans les normes qu'elle réclame. On parle de quelques semaines. Mais s'il y avait un troisième vote négatif, alors en effet l'hypothèse d'une sortie désordonnée reviendrait en force. Il faudrait alors sans doute organiser un sommet extraordinaire la semaine prochaine en urgence pour discuter des mesures à prendre et éviter le chaos redouté. Une troisième option est encore sur la table, selon une source européenne, un report long. Si la première ministre britannique, qui est fermement opposée à cette idée, changeait d'avis à l'approche du 29 mars, alors ce sommet pourrait servir aussi à en discuter. Mais sur le sujet, les 27 restent très divisés.
Alors justement, les Européens vont en débattre demain au Conseil, Angélique.
Oui, on va discuter des différentes hypothèses. Et côté français, on sent une envie de plus en plus affichée de tourner la page de ce feuilleton qui risque de polluer la campagne des élections européennes. On le redoute. On rappelle donc facilement que l'Europe est préparée à un no deal. En Allemagne, en revanche, Angela Merkel répétait encore hier qu'elle se battrait jusqu'au bout pour l'éviter. Les échanges demain seront sans doute très intenses, donc autour de la table du Conseil. Mais aucune décision ne devrait être prise. On va juste discuter. On prendra des décisions après le prochain vote à la Chambre des communes.
Angélique Bouin, directrice de Bruxelles. Merci à vous. Les affaires européennes, c'est aussi le casse-tête des partis de droite à propos du Hongrois Viktor Orban. Le Parti populaire européen doit décider de suspendre ou non le Premier ministre et son parti. Le Fidesz est accusé de s'éloigner des valeurs démocrates chrétiennes défendues par le PPE, qui réunit toutes les droites du continent, de la CDU allemande d'Angela Merkel aux Républicains en France. La sentence est encore plus lourde en appel qu'en première instance pour l'artisan d'un conflit parmi les plus atroces d'Europe. Radovan Karadzic vient d'être condamné à la prison à perpétuité par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. En première instance, il avait écopé de 40 ans. Là, il est définitivement jugé coupable de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, responsable entre autres du massacre de Srebrenica. Pierre Benazé a suivi ce verdict tant attendu dans les Balkans.
Les juges de La Haye ont abondé dans le sens du procureur, pour qui le jugement en première instance de Radovan Karadzic était trop clément. Les 5 juges de la cour d'appel ont affirmé que la peine de 40 ans en première instance était une erreur d'appréciation manifeste, déraisonnable et injuste. puisqu'il s'agit des crimes les plus graves et les plus importants jamais jugés par le TPI, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. C'est d'autant plus vrai, selon la Cour d'appel, que 4 accusés ont été condamnés à la perpétuité par le TPI, alors qu'ils n'étaient condamnés que pour un des 4 principaux motifs d'accusation qui pesait à l'encontre de Radovan Karadzic. En prison depuis 2008 à Skevdang, près de La Haye, l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie est donc condamné pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. C'est à la fois pour les 44 mois du siège de Sarajevo, pour la prise en otage de personnel de l'ONU utilisé comme bouclier humain pour éviter les bombardements de l'OTAN, et surtout pour le génocide de Srebrenica, où plus de 8000 Bosniaques, hommes et garçons, ont été assassinés à l'été 1995. Pierre Benazet, France Inter. À Bruxelles.
Un dictateur se retire, mais son nom va rester. Au Kazakhstan, le nouveau président, nommé par l'autocrate Nursultan Nazarbayev, rend hommage à son prédécesseur pour sa toute première décision. Il rebaptise officiellement la capitale Astana du prénom de l'ex-chef de l'État. Ça s'appellera donc désormais Nursultan. Autre décision, la fille de Nazarbayev est nommée présidente du Sénat. Le Mozambique est en train de vivre la pire crise humanitaire de son histoire récente. Après le passage du cyclone Idai, le nombre de sinistrés dépasse les capacités des secours. Près de 350 000 personnes seraient bloquées dans les zones inondées, selon le président de ce pays du sud-est de l'Afrique, bloquées sur les toits de leurs maisons, dans les arbres, dans l'attente des sauveteurs. Et compte tenu des pluies toujours fortes, la situation risque d'empirer, selon les humanitaires de l'ONU.
Retour en France pour la suite du journal Amélie Perrier avec la colère des Réunionnais contre Brigitte Bardot.
Elle est bien loin, l'icône de la nouvelle vague, quand elle provoque un déluge de réactions scandalisées. Aujourd'hui, militante de la cause animale, Brigitte Bardot, a signé un communiqué dans lequel elle affirme à propos de la Réunion, je la cite, que les autochtones ont gardé leur gène de sauvage. Réaction outrée du préfet de Lille, il dépose plainte, rejoint par le président de la région, soutenu par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui se trouvait justement à la Réunion hier. Plainte également déposée par le député Jean-Hugues Ratenon. Il s'est d'ailleurs exprimé à l'Assemblée nationale cet après-midi.
En tant que Réunionnais fier de l'être, je voudrais au préalable faire part de mon indignation suite aux propos de Madame Brigitte Bardot. Îles du diable qui ont gardé leur gène de sauvage, de cannibalisme, une population dégénérée et je passe. Même si la cause animale est un sujet préoccupant, personne ne peut accepter de tels propos. Et je rappelle que c'est le député réunionnais Younous Omahji qui a mené la rude bataille contre la méthode barbare qu'est la pêche électrique. Monsieur le Président, en votre qualité, je souhaiterais que dans cet hémicycle soient condamnées avec la plus grande fermeté ces injures raciales.
Voilà le député de La Réunion, Jean-Hugues Ratenon de la France Insoumise, des propos recueillis par Adrien Taufolet. Le gouvernement, lui, s'empêtre dans les sujets sociaux. Hier, la ministre de la Santé faisait marche arrière sur l'âge de départ à la retraite. On ne le recule pas, assurait Agnès Buzyn. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, annonce aujourd'hui que le sujet est pourtant bien sur la table de la concertation. Quant à Édouard Philippe, cet après-midi à l'Assemblée, il s'est dit ouvert à l'idée de travailler plus longtemps pour financer la prise en charge des plus âgés, mais pas question de toucher à l'âge de la retraite. La majorité, pas vraiment plus clair sur les mutuelles. Une proposition de loi de La République En Marche pour résilier sa complémentaire santé sans frais et à tout moment après un an de contrat vient d'être validée en commission. C'était une mesure promise pour le pouvoir d'achat des Français en réponse aux gilets jaunes, mais le texte fait l'objet de critiques. Karine Bécard, on vous rejoint à l'Assemblée nationale. Bonsoir.
Bonsoir.
Des critiques, y compris parmi les députés marcheurs.
Oui, comme toujours, finalement, il y a ce pôle, ce petit pôle de députés qui défend des mesures plus sociales que le reste de la majorité. C'est le cas notamment de Guillaume Chiche, par exemple, élu des Deux-Sèvres, un ancien socialiste qui s'est aujourd'hui opposé au texte pourtant déposé par La République En Marche elle-même.
Je crois qu'elle vient casser un système de mutualisation du risque de la santé, qu'elle va pousser les Françaises et les Français vers une individualisation. Et je crois que quand on brise les chaînes de solidarité, quand il s'agit de la santé, c'est particulièrement grave. C'est pour ça que j'ai porté des amendements de suppression sur chacun des articles et que j'ai voté contre cette proposition de loi.
Alors, en commission des affaires sociales ce matin, ils ont donc été une petite dizaine de députés marcheurs à refuser de voter cette proposition de loi. Ils devraient être un peu plus nombreux ensuite dans l'hémicycle, mais pas de quoi bousculer, c'est vrai, la majorité macroniste qui en fait un argument de pouvoir d'achat, le député des Hauts-de-Seine, Jacques Maire.
Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que année après année, l'évolution des tarifs de l'assurance complémentaire santé est supérieure à l'inflation, est supérieure à l'évolution des salaires. Et ça, c'est probablement dû pour une petite part à l'augmentation des coûts médicaux, la couverture, l'allongement de la vieillesse, etc. Mais c'est aussi dû à une certaine forme de marché préservé qu'il faut ouvrir.
En tout cas, cette majorité a tout de même du mal et de plus en plus à afficher sur la plupart des sujets un consensus. C'est vrai sur le régalien, avec, souvenez-vous, la loi anti-casseurs. C'est vrai aussi sur la question des valeurs, comme la laïcité en particulier. Et c'est encore vrai sur des sujets plus sociaux, comme cela s'est confirmé aujourd'hui.
Karine Bécart à l'Assemblée nationale, merci beaucoup. Et donc cette proposition de loi sur les mutuelles sera débattue dans l'hémicycle mercredi prochain. Le gouvernement et le président Macron ferment face aux casseurs. Le chef de l'État envoie les militaires de sentinelle aux manifestations des Gilets jaunes. La mission antiterroriste aura pour mission samedi prochain de protéger les bâtiments officiels et d'autres points fixes. Les manifestations de Gilets jaunes interdites à Nice. Sur un périmètre défini, la ville s'apprête en plus à recevoir la visite officielle du président chinois Xi Jinping. Des associations cultuelles interdites, le ministre de l'Intérieur ordonne la dissolution de 4 groupes qui, selon lui, légitiment le djihad armé. Il s'agit du centre Zara France à Grande-Synthe, dans le Nord, de la Fédération chiite de France, du parti antisioniste et de France Marianne Télé. Les vignerons à la barre, 2 domaines viticoles du Bordelais, passaient en justice aujourd'hui à Libourne, en Gironde, poursuivis pour avoir répandu des fongicides près d'une école en 2014. Une vingtaine d'élèves et une enseignante avaient souffert de malaise. L'institutrice avait été hospitalisée et les enfants confinés dans l'école primaire. Les associations partie civile dénoncent une omerta autour des vignobles, poumons économiques de la région. Certains protagonistes, Camille Huppe-Noir, ont brillé par leur silence et par leur absence aussi aujourd'hui.
Aucun parent d'élève ne s'est porté partie civile. Pour les avocats de la défense, cela prouve que l'affaire a été exagérée par les associations environnementales qui ont porté plainte. Maître Sophie Clavel.
On ressent bien qu'ils veulent faire évoluer les pratiques, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier des viticulteurs qui, eux, essaient en revanche de jouer les règles du jeu.
Au sein des associations, on parle d'une pression exercée par des lobbies viticoles. Les parents d'élèves auraient été dissuadés de porter l'affaire en justice. C'est ce que pense Patrice Lapouge de l'association Alerte Pesticides Haute Gironde.
Tout le monde travaille dans les vignes, dans le secteur. Ils ne peuvent rien dire. Sinon, il y a un risque de perdre son emploi quand on dit les choses.
Le tribunal a pointé l'absence d'éléments prouvant que les malaises à l'école de Villeneuve, il y a presque 5 ans, sont liés aux pesticides. Un débat très technique s'engage entre les avocats, ce qui agace Monique Demarco de l'association Cépenso, partie civile dans le procès.
C'est vraiment accessoire. Et comme débat, les épandages ont eu lieu pendant que les enfants étaient dans la cour de récréation. Il est évident que la responsabilité implique donc les châteaux et leur épandage.
Reconnaître la responsabilité pour ensuite encadrer plus strictement l'usage des pesticides, le procureur a plutôt suggéré la relaxe demandée par la défense. Le jugement est mis en délibéré au 30 avril.
Une amende d'1,5 milliard d'euros contre Google, amende infligée par la Commission européenne pour abus de sa position dominante. Google a imposé des clauses dans les contrats passés avec des sites web tiers, empêchant ses concurrents de placer leur publicité. On termine par du foot. L'équipe féminine de l'Olympique lyonnais joue ce soir le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre les Allemandes de Wolfsburg. C'était l'affiche de la finale l'an dernier, finale gagnée par les Lyonnaises. Alors, autre avantage psychologique pour elles, elles jouent au Groupama Stadium, 59 000 places, et pas à leur centre d'entraînement, pour la plus grande joie de l'attaquante Eugénie Le Sommer.
Il y a quelque chose de spécial quand on joue ici, c'est pas comme les autres matchs. Et ça permet de se mettre en configuration vraiment tout de suite. Et c'était important de prendre ses repères sur le terrain, parce que mine de rien, on n'y joue pas non plus souvent. Donc pour nous, c'est toujours mieux de jouer dans ce stade. Et voilà, on a aussi des beaux souvenirs ici, donc ça nous rappelle aussi ça. Et même si c'était pas le sujet de la question, mais c'est vrai que les supporters vont nous aider. C'est toujours mieux de jouer dans un stade avec plus de monde que si on avait joué au Groupama Training Center. C'est vrai que ça aide d'avoir le public derrière nous. Et j'espère que ce sera un bon match et qu'il y aura une belle ambiance.
La footballeuse de l'OL, Eugénie Le Sommer, match à 20h45 au Groupama Stadium à Lyon.
C'était le journal d'Amélie Perrier.